Bonjour, il est 14h, nous sommes le lundi 20 novembre, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
C'est la saison 2 de La Relève et tous les 15 jours, désormais, La Relève, c'est 30 minutes avec de nouveaux talents ou de nouvelles idées. Aujourd'hui, notre invité sait que le monde est une jungle, mais pas forcément celle que vous croyez. La Relève vous invite dans le monde des idées de ceux qui les mettent en pratique avec Pablo Servigne qui publie l'entraide « L'autre loi de la jungle » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Pablo Servigne, bonjour. Vous êtes ingénieur agronome et docteur en biologie.
Oui, bonjour.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre avec tous ces diplômes?
C'est justement grâce à tous ces diplômes que j'ai pu me rester dans le monde de la science, en fait. Et je regarde tout ce qui sort en publication scientifique semaine après semaine. C'est passionnant. Et j'essaye d'analyser, de synthétiser, de partager avec le grand public.
Vous êtes l'auteur, donc, je viens de le dire, de l'entraide, l'autre loi de la jungle. Vous avez un co-auteur qui s'appelle Gauthier Chapelle. Et au début du livre, vous expliquiez que finalement, vous avez plus ou moins écrit ce livre parce que ce qu'on vous disait sur la nature était contradictoire avec la manière dont vous l'aviez vécu. On a presque l'impression que vous aviez presque de la peine à lire que la nature était sauvage, dangereuse.
Ah, plus que de la peine, ça me rend triste. Enfin, ça me rend en colère, ça me met en colère aussi. Ça ne correspondait pas du tout à la vision du monde qu'on avait... qu'on a développé. Enfin, Gauthier, c'est un grand naturaliste. Il est passionné d'arbres, de mousses, de petites bêtes, de tout, de dauphins, etc. Et puis moi aussi, ma vision du monde, j'ai étudié les insectes sociaux, en particulier les fourmis. Et puis voilà, j'ai été en Amazonie quelques mois. Enfin, toute ma vision du monde vivant correspond pas du tout à la vision qu'on a de la loi de la jungle, la loi du plus fort, l'agressivité, etc.
C'est ça, c'est la loi de la jungle qui est un peu la loi de la guerre du tous contre tous. C'est un peu contre ça que vous voulez mettre en échec, enfin, pas mettre en échec, mais montrer que c'est les limites de cette conception-là.
Absolument. C'est une conception qu'on a depuis... Le début du libéralisme avec Hume, Hobbes, depuis la fin des guerres de religion en Europe, on a cette idée très ancrée que l'être humain, c'est vraiment, il est égoïste, il est agressif, et dès qu'on sort sa nature, ça ressort la nature dans la jungle, c'est le sang, c'est les morsures, les griffes.
Donc vous, quand vous voyez une araignée, vous n'avez pas peur?
Non, moi, j'ai pas peur.
Alors, quel rapport? Vous avez un rapport panthéiste avec la nature? Vous avez vous sentez bien quand
je
vous
me
êtes
sens très bien avec les non-humains.
Vous ne sentez et pas avec quelque les chose d'agressif aussi. Et de dangereux?
Ça dépend. Et je nie pas qu'il y a de l'agression aussi dans la nature. Je veux dire, face à un chien enragé, je ferai pas le malin non plus. J'ai peur, mais c'est normal. Alors, la peur, l'agression, la compétition, ça fait partie du monde vivant. Ça fait partie du monde humain. Il ne s'agit pas de le nier, il s'agit juste de remettre un peu les pendules à l'heure. Et on a fait la synthèse de plein de travaux, des milliers de travaux, depuis des années, des décennies, qui montrent que l'altruisme, la coopération, l'entraide, les mutualismes, l'entraide entre espèces, tout ça, c'est vraiment très commun, très fréquent depuis des millions d'années. Et qu'on l'a aussi en nous, chez les humains. Mais on l'a oublié, on n'arrive plus à le voir.
Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites finalement, la loi du plus fort, elle existe. Enfin, la loi de la jungle classique, elle existe. Mais il y en a une autre qui est cachée, qu'on n'arrive même plus à voir, tellement on en a perdu l'habitude.
Exactement.
Vous voulez la révéler.
Alors, c'était l'idée, mettre un peu les projecteurs là-dessus, parce que même s'il y a des centaines et des milliers de travaux, on n'arrive plus à se rendre compte de la puissance de ce qu'on appelait un principe du vivant. C'est quelque chose qui guide l'évolution du vivant. En fait, dans le vivant, on parle de sélection naturelle. La sélection naturelle, on a l'idée depuis Darwin, le darwinisme, que c'est la compétition, le plus fort qui gagne. En fait, pas du tout. Enfin, pas du tout, en partie. Mais dans la sélection, il y a deux étapes. Il y a d'abord, on crée de la diversité, c'est ça la vie. Et après, il y a sélection du plus apte. Eh bien, dans cette étape de diversité, l'entraide, c'est un moteur de l'innovation du vivant. Les cellules s'entraident pour faire des super organismes, etc. On fait des sociétés. Donc ça, à la première étape de la sélection naturelle, l'entraide est un concept clé. Et puis à la deuxième étape, à la sélection, on a découvert, on a mis la lumière dans ce livre sur le fait que ceux qui survivent, ceux qui sont sélectionnés, c'est pas forcément les plus forts. c'est ceux qui s'entraident le plus. En milieu hostile, quand il y a une pénurie, quand il y a quelque chose de difficile dans l'environnement, c'est ceux qui s'entraident qui survivent.
Alors, puisque vous parlez de ça, je reviens sur ce que vous dites, mais quand vous montrez très bien, notamment, vous donnez un exemple, et j'ai un peu oublié, je crois que c'est dans le monde végétal, entre un arbre et peut-être un lichen, je ne suis pas sûr. Et c'est, alors ça, c'est très étonnant, qui, quand ils sont dans des conditions particulières, s'entraident, et puis on voit quand on monte sur la montagne. Alors c'est le contraire. C'est que dans la vallée, je crois que dans la montagne, dans la vallée, ils s'entraident parce que c'est très dur, et dans la vallée, ils sont...
C'est ça, dans la vallée, il fait chaud, il y a des nutriments, et c'est, en fait, c'est deux conifères,
ouais, c'est ça.
Un sapin et un... Et un pin,
ouais, c'est ça,
une
c'est...
espèce de pin, une espèce de sapin. Et en fait, c'est fascinant, les écologues ont remarqué qu'en bas de la vallée, lorsque un pin mourait, le sapin se portait mieux. Donc ils en ont déduit qu'il y avait une compétition entre les deux espèces. Et alors, depuis des siècles, on en reste là. On remarque qu'il y a de la compétition dans la nature. Sauf que ces écologues, cette équipe, ils sont allés voir en haut de la montagne, il y avait des milieux difficiles, il fait froid, il y a peu de nutriments. Et là, ils vivent aussi ensemble, mais groupés. Et quand le pin meurt, le sapin se porte moins bien. En fait, les espèces coopèrent. Là, en ce moment, dans les librairies, il y a un best-seller qui s'appelle « La vie secrète des arbres » d'un Allemand, Peter Wohlleben, qui raconte toutes les découvertes qu'ont fait les forestiers, les botanistes, sur l'entraide qu'il y a dans la forêt entre les arbres, les végétaux.
Parce qu'on découvre en plus qu'ils communiquent dans son livre.
Oui, ils communiquent. Et alors, ils s'échangent des nutriments par un internet des racines, une sorte de mycélium qui relie toutes les racines. Et en fait, les vieux donnent des nutriments aux jeunes pour les faire émerger. C'est le principe des allocations familiales. et puis, entre espèces, ils s'entraident. C'est-à-dire que, par exemple, un bouleau peut donner des nutriments à un sapin pour l'aider à pousser. Et c'est le principe de la sécurité sociale. Et ça, c'est grâce à l'entraide entre plantes et champignons et qui connecte les arbres, qui permet de l'entraide entre plantes et plantes. C'est un grand principe du vivant, l'entraide appelle l'entraide.
Et ce que vous montrez aussi, c'est que cet exemple-là du pin et du sapin n'est pas isolé. Il y a d'autres espèces qui vont, dans certains cas, s'aider parce que les conditions sont difficiles, qui, à l'inverse, vont vivre chacun leur vie dans d'autres conditions.
Il y
a plusieurs exemples de ça.
Il y a plusieurs exemples, c'est vraiment un principe qui traverse le vivant. Donc, par exemple, les oiseaux. Il y a des oiseaux une espèce qui, en période de reproduction, est plutôt dans la compétition. Tout ce qui est compétition, c'est fréquent dans la reproduction et les territoires, pour marquer le territoire. Et cette même espèce, quand la période de reproduction est finie, ils coopèrent en groupe, en large groupe, pour chasser, pour éviter les prédateurs, etc. Donc on a vraiment, au sein d'une même espèce, des comportements très différents. Mais voilà, il ne s'agit pas de nier qu'il y a de la compétition, mais il s'agit de remettre en avant un petit peu l'autre principe.
Oui, donc votre livre me donne tous ces exemples, très bien. Sur la genèse du livre, à quel moment vous êtes dit on a assez de matière pour pouvoir dire, c'est un peu caricatural ma question, une question d'animateur de radio, mais est-ce que vous aviez déjà l'idée ou c'est à force d'accumulation que vous êtes dit, mais oui, il y a de l'entraide et c'est évident. Vous vous rappelez à quel moment c'est sédimentalisé?
Oui, je m'en rappelle bien, mais pour moi, je l'ai dans la tête depuis 10-12 ans, comme ça, le titre, je crois que j'ai trouvé en 2010. Et j'accumule des données depuis 12 ans. Et y a beaucoup. Alors, je rêvais de l'écrire déjà à l'époque, mais il y avait beaucoup, mais je n'avais pas le temps. À un moment, j'ai eu le temps, mais il y avait tellement d'études qui paraissaient. Et là, ces derniers mois, il y a eu comme une cristallisation. Il y a eu beaucoup d'études nouvelles passionnantes qui ont permis de donner un peu de cohésion à tout ce corpus, à cette synthèse scientifique. Et ça fait vraiment quelque chose de cohérent. Je trouve qu'on a passé un cap là, ce qui provoque des déclics dans l'imaginaire. Waouh, un effet waouh que moi j'ai eu et que je souhaite partager avec le monde.
Parce que ce que vous racontez finalement, c'est que cette histoire de la loi de la jungle classique, on va dire, on va l'appeler la vieille loi de la jungle, parce qu'on est dans un vieux monde, un nouveau monde, donc il y a la vieille loi de la jungle, qui est un peu la loi donc, de la compétition, de la concurrence qui existait. Ouais. Ce que vous dites, c'est que cette loi-là finalement, elle s'impose à nous et on a fini par y croire et à croire qu'on vit dans un monde comme ça. Et vous, finalement, ce que vous mettez en avant, c'est qu'on peut voir le monde d'une autre façon. Et de la même façon, il y a un moment où vous expliquez que Darwin, c'est pas qu'il a tort, mais une des personnes qui l'a critiqué, j'ai là encore oublié son nom, il dit, en fait, Darwin a observé un espace tropical, foisonnant, où il y a peu d'entraide, alors que s'il avait été ailleurs, il aurait vu l'entraide. Finalement, on voit ce qu'on cherche.
Exactement, mais les scientifiques créent des hypothèses et des théories en fonction de leur époque. Et inversement, l'époque influe, enfin, les deux s'influencent, c'est-à-dire que les découvertes scientifiques peuvent influencer l'idéologie d'une époque. Ce qui est fascinant avec l'exemple de Darwin, c'est que Darwin a fait ses études, ses observations dans les Galapagos, dans le milieu tropical d'abondance, de foisonnement d'espèces. Et alors, il a vu aussi beaucoup de compétition.
Il venait d'Écosse.
Il a été influencé par Malthus, etc. Mais alors, Darwin a quand même été plus fin que ça. Il a observé compétition et coopération. Mais un jeune prince anarchiste russe, qui s'appelle Pierre Kropotkine, quelques années après, il a lu Darwin, c'était un grand scientifique, un géographe, et il a aimé, il est parti en Sibérie avec des expéditions, avec des scientifiques, pour essayer de récolter des observations de cette sélection naturelle. Et ce qu'il a observé en milieu hostile, en Sibérie, il y avait peu à manger, il faisait froid et tout ça, c'est que ceux qui survivent sont ceux qui s'entraident. Il en a tiré un livre qui s'appelle « L'entraide, un facteur d'évolution » en 1902, avec une grande synthèse scientifique et merveilleuse, et qui ne contredit pas Darwin, c'est ça qui est fou, mais qui complète que l'un des principes du vivant, c'est que lorsqu'il y a un milieu de pénurie et hostile, enfin un milieu difficile, l'entraide émerge. Et lorsqu'il y a un milieu d'abondance, de richesse, etc., on peut voir apparaître plus la compétition. Et on fait le parallèle avec notre époque, c'est qu'on vit aujourd'hui, on a une culture de la compétition, vous savez, on est extrêmement compétent en compétition. Toutes les business schools et les facs d'économie nous forment à la compétition. On est devenu...
Même les écoles d'ingénieurs.
Et les écoles d'ingénieurs et tout le monde, là, la politique, tout est compétition. En fait, on est devenu hypertrophié en compétition. J'ai perdu le fil, du coup.
On a oublié l'autre partie, j'imagine, c'est ça que vous vouliez dire.
On a oublié l'autre partie, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est... on est extrêmement riche, on est dans des sociétés d'abondance énergétique. Alors ce qui est intéressant, c'est de relier ça aux énergies fossiles. Pourquoi nous, les pays industrialisés, nous sommes riches? Parce qu'on a les énergies fossiles. Les énergies fossiles, ça nous chauffe, ça nous transporte, ça nous nourrit. C'est comme si on avait l'équivalent, chacun de nous, Européens moyens, 400 esclaves énergétiques. Chacun de nous, on a 400 esclaves qui travaillent pour nous. C'est ça la puissance du pétrole. On s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est normal.
Pétrole et autres sources d'énergie.
Gaz naturel et charbon, les énergies fossiles. Ça nous donne une puissance absolument incroyable. Ce qui fait que chacun de nous, on est des pharaons. Et on peut dire à notre voisin, j'ai pas besoin de toi, je t'emmerde en fait. C'est un luxe de pouvoir dire je t'emmerde, de pouvoir dire je n'ai pas besoin de toi. Et c'est cette culture de l'égoïsme, elle est possible que parce qu'on est très riche. Et quand il y a une... période de disette ou de pénurie, là l'entraide réapparaît. On l'a vu en Grèce dans ces dernières années avec les crises sociales et politiques, économiques majeures. Eh bien, les réseaux d'entraide, d'échange de graines, les potagers collectifs, tout ça réapparaît. Et même, on va plus loin dans le livre. En temps de catastrophe, quand il y a un ouragan, un attentat terroriste, un crash d'avion, un tremblement de terre, eh bien, à l'épicentre des catastrophes, alors il y a on voit apparaître, et ça c'est tous les témoignages de survivants qui le montrent, des comportements d'auto-organisation, de calme, d'entraide et d'altruisme incroyables, en temps de catastrophe.
Down.
C'était Ariel Pink, Dedicated to Bobby Jameson, un songwriter des années 60, tombé dans l'oubli depuis. L'album porte le même nom que le titre de cette chanson. Voilà, tout tombe bien.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon casque, mais je pense que j'ai perdu un tympan. Pablo Servigne, nous sommes toujours avec vous pour l'entrée de l'autre loi de la jungle aux éditions Les Lois qui Libèrent. Vous êtes revenu un petit peu sur la genèse, sur ce livre, sur la manière dont finalement on trouve l'entraide partout dans la nature, partout dans le monde du vivant plutôt que dans la nature. Je pense peut-être vous préférez cette expression-là. Est-ce qu'on peut reparler un petit peu du prince Kropotkine, qui est un des personnages de ce livre, qui est un anarchiste très connu au 19e siècle, qui est un personnage qui, tel que vous le décrivez, a l'air très attachant. Alors, qui était-il, cet anarchiste ?
Il est fascinant, et d'ailleurs, notre livre, on a choisi le titre « Entraide » pour réunir cette tendance qu'ont les êtres vivants à s'associer. Hein. Ça regroupe l'altruisme, les mutualismes, la fraternité, la solidarité. Mais on a choisi « Entraide » par hommage, en fait, un clin d'œil à Kropotkine, qui avait... publié cette fameuse synthèse scientifique en 1902, qui a été traduite en 1906 par son copain, son ami Élisée Reclus, un grand géographe français et anarchiste aussi. Et il a traduit par le mot entraide. Alors, en anglais, c'était mutual aid. Et c'est Élisée Reclus qui a offert ce mot à la langue française, qu'il a inventé. Au début, c'était avec une apostrophe.
Entraide.
Aide. Puis l'apostrophe est partie. Et Kropotkine, en fait, il a été éduqué dans une...
Il a quand même été en prison en Russie et en France, voilà. C'est quand même pas mal.
Il avait une destinée de tsar dans l'armée impériale. Il a refusé la brutalité de l'armée. Il a voulu une carrière scientifique. En fait, sa nounou était française et elle lui a inculqué les valeurs des Lumières à l'époque, en Russie et dans la noblesse. Et lui, il est plutôt parti dans les mouvements révolutionnaires. Hein. L'Europe s'embrasait... Au rythme des barricades et des mouvements révolutionnaires, c'était Marx, Bakounine, etc. Donc lui, il a participé activement à ces révolutions.
Si j'ai bien compris ce que vous écrivez, il est aussi en rupture avec ces gens-là parce qu'il est contre une forme de communisme autoritaire.
Voilà, au début, il y avait une sorte de communisme général. Enfin, bon, je caricature, mais après, il y a Marx et les autoritaires qui se sont un peu imposés et qui ont rejeté les communistes libertaires. Qui se sont rassemblés à Saint-Imier, mais qu'on a appelé les anarchistes. Donc c'est une sorte de communisme libertaire. Et en fait, l'originalité de Kropotkine, c'est qu'il utilisait les principes du vivant, sa théorie, enfin son côté géographe et biologiste, pour ancrer l'anarchisme, pour lui donner des fondements à une éthique voilà, une philosophie politique. Et ça, ça n'a pas plu du tout, non seulement aux marxistes qui l'ont complètement rejeté, mais à la droite aussi, et au monde scientifique qui entrait plutôt, le monde scientifique anglophone, disons occidental, qui entrait plutôt dans une vision individualiste de, et génétique aussi de la biologie. Donc il a été oublié pendant un siècle.
Il y a des centaines de questions qu'on voudrait déjà vous poser. Enfin, des centaines, j'exagère toujours un peu, des dizaines. Mais l'anarchisme, c'est donc pas le chacun pour soi.
Ah, c'est
comme
le contraire.
On peut le croire.
On croit souvent que c'est...
Je fais ce que je veux, quoi, l'anarchiste.
Mais pas du tout, c'est le contraire. Lizzie Reclus disait même que l'anarchisme est la plus haute expression de l'ordre. C'est vraiment apprendre à s'organiser avec tout un tas de règles, si on veut, mais pour toujours avoir ce souci de réduire les dominations, les hiérarchies, les niveaux de pouvoir, et de s'organiser de manière horizontale, en fédéralisme, en autogestion. C'est l'autogestion, mais ce n'est pas du tout le bordel, au contraire.
Comment vous voyez justement actuellement, alors, je ne sais pas si vous suivez ça, si vous suivez déjà beaucoup de choses et vous étudiez beaucoup de matières, mais comment, par exemple, vous voyez que dans l'entreprise aujourd'hui, il y a tout un mouvement justement qui est contre les hiérarchies, mais chez des gens qui cherchent l'efficacité finalement, hein, qui ne sont pas du tout mais certains
alors,
sont...
Alors c'est fascinant, ça, il y a Jérémy Rifkin parle de pouvoir latéraliser, on voit aller émerger toute une économie collaborative, le peer-to-peer, les communs, tous des modes d'organisation plus horizontaux, plus décentralisés, plus réticulés, plus biomimétiques en fait. Ils s'inspirent du vivant et ils sont du coup plus efficaces, enfin plus efficaces non, mais plus résilients pour être plus précis. En fait, dans la nature, le mode d'organisation hiérarchique pyramidale, avec un chef, et voilà, ça marche pas. La nature n'a pas sélectionné ça parce que c'est très vulnérable. Et quand l'environnement change, hop, c'est les premiers à partir. C'est pas du tout résilient. Et donc, ces modes d'organisation, toute cette vague qui émerge d'économie collaborative, alors, il y a un petit bémol, c'est fascinant, d'accord, et elle est plus efficace, d'accord, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Parce que si la raison d'être de ces entreprises, c'est de toujours rémunérer quelques actionnaires et de créer des inégalités, etc., bon, il faut se méfier. Il faut voir aussi, il faut veiller, enfin, toujours être vigilant à la raison d'être de ces entreprises.
Si on revient au monde du vivant, qui est le point de départ de votre livre et qui est la pierre sur laquelle vous avez construit, en tout cas, tout cette théorie, je ne sais pas si on peut appeler ça une théorie, en tout cas, toute cette collection d'informations et si vous avez élaboré une théorie, allons-y, franchement.
Je ne suis pas le seul, on a toute une lignée intellectuelle derrière nous.
Est-ce qu'on peut parler de la même façon d'entraide quand on parle de plantes ou d'animaux, où il n'y a finalement pas de volonté? C'est une espèce de, j'ai envie de dire, peut-être je me trompe, peut-être une connaissance, on a l'impression qu'il y a une coopération spontanée, et des êtres humains qui, eux, doivent faire le mouvement pour aller aider leurs proches.
Absolument, c'est une bonne question, parce qu'on a souvent l'impression...
Est-ce qu'il peut y avoir d'entraide sans volonté, en fait? C'est ça ma question.
Oui, il peut y avoir entraide sans intention, entraide dans les faits, et au niveau de la théorie de l'évolution, c'est ça qui compte finalement, que les bactéries s'entraident, les champignons, les plantes, peu importe, les abeilles qui pollinisent des plantes. En fait, on s'en fout qu'il y ait de la volonté ou pas au niveau de la théorie de l'évolution. Ce qui compte, ce sont les faits. Par contre, chez les humains, il y a une couche culturelle, psychologique, etc., qui implique des intentions, de l'empathie, de l'amitié, de la confiance. C'est très très complexe, alors on décrit un peu tous ces mécanismes. Et nous, les humains, nous avons cette part, psychologique, mais aussi l'altruisme et la coopération dans les faits. Il y a les deux couches. Et donc, ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'au niveau humain, les deux sont intéressants. Et nous, notre conception du monde, souvent, les humains, on se voit détachés du monde vivant. On est là, on est unique. Il y a une sorte de discontinuité, de séparation nature-culture. C'est un des grands mythes de notre civilisation, séparation nature-culture. Et ce que avait vu Darwin, il avait une intuition géniale, c'était que, en fait, il y a une continuité entre le monde vivant, des bactéries aux plantes, aux animaux, à nous. Il y a une continuité. On fait partie. On est régi par les mêmes principes. Mais le fait que nous, il y a moins 70 000 ans, on est parti dans une révolution cognitive, on est parti dans notre tête, dans notre mythologie, notre imaginaire, fait que on a une couche culturelle en plus, alors qui est très imbriquée avec la couche biologique, qu'on peut plus
séparer.
Qui a créé, qui a accéléré les processus d'évolution. L'évolution culturelle est très rapide, et donc on peut ressentir dans cette continuité une discontinuité. Mais on fait partie du monde vivant. Je veux dire, si on se coupe du vivant, on est mort. Enfin,
pourquoi la peur du loup est-elle si importante dans votre livre? Vous parlez de la peur du loup.
Alors, c'est intéressant parce que dans le monde de l'entraide, tout n'est pas rose et bisounours. Justement, on sait que pour créer de la cohésion au sein d'un groupe, pour faire coopérer des individus au sein d'un groupe, le meilleur moyen, le plus facile, en tout cas le plus connu dans l'histoire, c'est de créer un grand méchant loup, un ennemi commun. Bon, vous avez par exemple les Français qui voient les Allemands et qui font, enfin, en temps de guerre, c'est classique, mais ça peut être les supporters du PSG et l'OM. Le fait qu'il y a une confrontation, ça soude les supporters d'un clan. Et donc, le fait d'avoir un grand méchant loup, c'est un grand principe qui soude les groupes. Le problème, c'est qu'on peut se demander, d'accord, alors il y a compétition entre les groupes, il y a des guerres, enfin, l'entraide, c'est pas forcément tout rose. La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que les groupes peuvent s'entraider entre eux? Et la réponse est oui. On peut retrouver au niveau, à une échelle plus grande, entre les groupes, les mêmes principes, les mêmes mécanismes d'entraide qu'au sein d'un groupe entre les individus. Il y a comme une sorte d'emboîtement de poupées russes du vivant qui fonctionne à toutes les échelles.
C'est-à-dire qu'on aurait des groupes qui s'entraident, qui se...
Voilà, des grands groupes entre eux. Par exemple, prenons l'exemple de l'Union européenne. C'est une coopération entre grands groupes, entre pays. Et ils ont ou à l'OTAN, par exemple. L'OTAN, c'est une alliance aussi de pays qui fonctionne sur base de réciprocité, de confiance, de sentiment d'égalité, d'équité, de sentiment de sécurité. Tout ça, c'est les ingrédients de l'entraide au sein d'un groupe. Et bien, ça fonctionne aussi entre les pays. Et c'est fascinant. À toutes les échelles, ça se remarque, même depuis les bactéries jusqu'aux grands États. Et c'est pour ça qu'on a osé dire que c'en est un grand principe de vivant. C'est une autre loi de la jungle.
Le monde idéal, c'est un monde qui sait à la fois avoir de l'entraide et de la coopération et pondérer l'un et l'autre.
Je ne parlerai pas de monde idéal, mais je sais pas.
Un monde plus agréable.
Nous, on a une métaphore avec Gauthier qui est de se rendre compte que nous, on est devenus extrêmement compétents en compétition. On a une sorte de jambe hypertrophiée. Et donc, on propose de retrouver l'usage d'une deuxième jambe atrophiée de l'autre jambe pour apprendre à marcher. Ben, nous apporterait l'usage de la marche, on ne boiterait plus. Et donc, Ah oui, on boite. La compétition, aujourd'hui, l'idéologie, la culture de l'égoïsme et de la compétition et de l'ultra-individualisme est très toxique. Ça provoque de la séparation, de l'isolement, du stress, des burn-out. Ça devient... Et en plus, on se coupe aussi, non seulement entre humains, entre nous, mais on se coupe du monde vivant. Et du coup, on peut les exploiter, les manger, les massacrer, faire ce qu'on veut, puisqu'on s'est séparé d'eux. On est hors sol. Et une société hors sol qui prend pas soin de ses voisins, eh ben elle finit par s'autodétruire.
Ouais, finalement, ce que vous proposez après des théories politiques qui, au XVIIIe, au XIXe siècle, ont fondamentalement créé un peu un mythe d'un état de nature qui était mauvais et dangereux, c'est de repartir d'une nature bienveillante.
Les deux.
Je sais pas si vous aimez bien ce mot-là.
Non, les deux. En fait, c'est Hume déjà à l'époque. Il disait l'être humain, il naît égoïste et altruiste. Et la société le rend égoïste et altruiste. Mais c'est évident qu'on est dans cette complexité, tout est paradoxe. Et retrouver le sens du paradoxe, le sens de la complexité, que tout n'est pas blanc ou noir, mais un peu gris, c'est redonner, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est redonner des outils conceptuels. On donne une boîte à outils pour vivre notre monde et pour aborder les tempêtes à venir et les catastrophes à venir.
Pablo Servigne, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci.
Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Gauthier Chapelle de L'entraide, l'autre loi de la jungle. Le livre se lit aussi vite que cette émission est passée. Aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup. C'était préparé et présenté par Christophe. À la réalisation, celui qui m'entraidait s'appelait Louis Julien. Et puis vous nous retrouvez sur Facebook. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Internet, le jour où j'y penserai. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est 30 minutes.